Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, que la parole de vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Et nous pourrions lire maintenant au chapitre 3, toujours de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Et voilà, c'est bien, hein? Pardonnez-vous réciproquement. On parle souvent du pardon de manière très unilatérale. Mais vous savez, l'être humain, il est ce qu'il est, quoi. Et les torts ne sont pas toujours à 100% du même côté. Hein? Alors, pardonnez-vous réciproquement. Comme c'est beau quand un frère ou deux frères tombent dans les bras l'un de l'autre et se pardonnent mutuellement. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. De même que l'Esprit vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous. Exhortez-vous, c'est-à-dire consolez-vous, encouragez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen.
Amen.
Je crois que là, vous avez une belle prédication. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Alors, on a lu, bien sûr, au début de l'Épître aux Colossiens, dans les premiers versets, on a pu voir que celui qui envoie la lettre, l'expéditeur, le rédacteur, c'est Paul. Il est en prison, hein. Il est en prison, à Rome. Et il indique son service donc, Paul, apôtre. Il indique que pour cela, il a été choisi de Dieu. par la volonté de Dieu, bien sûr. Et puis peut-être, il y a aussi celui qui a écrit la lettre, peut-être Timothée, on peut le supposer, c'est pas certain, c'est pas écrit. Et puis il y a l'adresse de la destination de cette lettre, aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse, des saints et des fidèles. Oh, mais vous pensez comment ils sont, ils étaient ces gens-là, ils étaient formidables. Eh bien, je crois qu'ils étaient aussi, ils n'avaient pas atteint la perfection, ils étaient comme nous, ils n'avaient pas atteint la perfection, les Colossiens, hein, même s'ils avaient fait des progrès. Alors, c'est vrai que d'une manière simplifiée, on pourrait dire qu'il y a trois stades de sanctification. Il y a la sanctification de Jésus-Christ, notre Seigneur, elle est parfaite. Elle est parfaite, il a vécu sur cette terre sans commettre de péché. Et puis, il y a notre position en Christ. Nous qui avons ouvert notre cœur à Christ, qui appartenons au Seigneur, nous sommes saints. Nous sommes saints. Nous sommes appelés aussi des saints, comme les Colossiens. Et puis il y a l'état de sanctification, alors là qui est plus relatif, de chacun d'entre nous ce matin, suivant notre avancement spirituel. Alors, si l'apôtre Paul écrivait ce matin aux frères et sœurs de Pont-Saint-Pierre, il écrirait aux saints et aux fidèles frères et sœurs qui sont à Pont-Saint-Pierre. Voilà. Hein, on est d'accord. Ensuite, nous trouvons son vœu pour les Colossiens. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Eh bien, moi, je vous en dis autant ce matin. C'est aussi mon vœu pour chacun de vous, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et puis ensuite, nous remarquons son action de grâce pour la foi, l'amour manifesté par les Colossiens, et nous remarquons qu'il les porte dans la prière. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier Dieu pour vous, étant informés de votre foi et de votre charité pour tous les saints. Devant Dieu, nous sommes gardiens les uns des autres. Je ne sais pas si nous en sommes pleinement conscients toujours. Nous sommes gardiens les uns les autres. Nous sommes appelés à nous porter les uns les autres dans la prière. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Tu pries pour moi, je prie pour toi. Alors, on va commencer bien sûr méditer un petit peu les premiers versets du chapitre 3, donc, de l'Épître aux Colossiens. Alors il y a déjà dans les premiers versets deux verbes qui sont intéressants, c'est chercher et affectionner. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Deux verbes qui se complètent magnifiquement. Et se complètent magnifiquement. Affectionnez-vous, en quelque sorte, que les choses en haut soient l'objet de vos pensées aussi. Hein. Cette pensée-là dans le texte grec. Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi ? Pourquoi ? Car vous êtes mort. Hein, c'est écrit là. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes mort. Vous saviez pas ? Vous l'avez pas lu dans le journal ? Ben, c'est écrit, là. Vous êtes mort. Alors, voilà une bonne raison de ne pas convoiter les choses de la terre. Alors, bien sûr, pour un incroyant, ça peut sembler bizarre, cette affaire-là, hein, car vous êtes mort et votre vie est cachée. Ben, s'il est mort, il n'a plus de vie. Eh oui. Bien sûr, il s'agit de notre identification avec Christ. Vous n'êtes pas mort physiquement, bien sûr, mais vous êtes mort avec Christ, ressuscité avec lui. Nous avons la vie de Jésus. Notre cœur, il est au ciel. Amen. Je crois que c'est très important ça. L'apôtre Paul pouvait dire En Galates, c'est un passage que vous connaissez bien, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et on pourrait presque même d'ailleurs traduire dans la foi du Fils de Dieu, puisque c'est sa vie qui est en moi. Dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Sur la croix, il y a le renoncement de tout ce qui plaît au monde. Puis il y a ma chair. Il y a ma chair, bien sûr. Il y a mon vieil homme. Pour quoi faire? Pour accomplir chaque jour ce qui plaît au Seigneur. Je ne veux plus vivre ma vie, mais chaque jour vivre la sienne, manifester la sienne. C'est ce que finalement l'apôtre a affirmé. C'est ce que l'apôtre a affirmé. Rechercher les choses d'en haut, m'attacher aux choses d'en haut, penser aux choses d'en haut, c'est mon but, c'est mon objectif sur cette terre. Pourquoi? Car je suis mort aux choses d'en bas. Je suis mort aux choses d'en bas. Je vis pour les valeurs du ciel. Maintenant, avant non, avant je vivais pour les choses d'en bas. Maintenant que j'appartiens à Christ, je vis pour les choses d'en haut. C'est simple ce que je vous dis, non, ça va, c'est pas trop compliqué quand même. Toutefois, c'est vrai qu'il y a notre avancement spirituel. Chacun est différent, chacun a peut-être des progrès à faire, moi j'en ai, hein, dans le domaine, dans le chemin du renoncement, dans le chemin de la mort à soi-même, pour manifester non la vie du moi, mais la vie de Jésus. Mais il n'existe pas, je laisse ça un peu à votre méditation, mais il n'existe pas d'amour vrai, véritable, authentique, sans renoncement. Ça n'existe pas. Je pense que nous avons besoin de réfléchir peut-être sur ces choses. Jésus, lui, a renoncé à la gloire du ciel. Il est venu mourir sur une croix parce qu'il m'aimait, parce qu'il vous aimait, parce qu'il nous aimait. Il a renoncé à tout. Alors sa vie ici-bas, son attitude, écoutez, c'est un modèle merveilleux. Il n'y a pas de plus beau modèle que la vie de Jésus ici-bas. D'ailleurs, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour sa croix, qu'il me suive. Oui. Pierre a pu écrire dans 1 Pierre 2, 23, « Lui qui a injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Est-ce que nous en sommes là? Hein? Est-ce que nous en sommes là? Vous savez, quelqu'un qui est... Bon, quelqu'un qui est mort, vous pouvez l'injurier autant que vous voulez, il ne vous répondra pas. Il est mort. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, si vous saviez, mon frère, tout ce qu'il a dit sur moi, ou si vous saviez tout ce qu'il m'a fait. Eh bien, mon frère, ma sœur, si ça t'a touché si fortement, eh bien, c'est parce que encore tu as des progrès à faire, puis que ton vieux moi est encore trop vivant. Tu as encore des progrès, t'es comme moi, des progrès à faire. On est tous au service du Seigneur. Nous tous des serviteurs de Dieu. Alors, chacun à notre niveau, selon le don qui nous a été donné, chacun a reçu quelque chose pour servir dans le corps de Christ. Mais on ne peut pas servir sans emprunter le chemin du renoncement, même quelquefois, même l'oubli de soi. En décembre 1973, ma grand-mère est décédée. C'était, comment vous dire, ma seconde maman. Ma seconde maman. J'ai souvent été avec elle. Eh oui. À Noël, nous étions réunis chez mes parents, dans l'Eure, dans un petit village, et dans une des chambres à Noël, il y avait le cercueil, avec ma grand-mère. nous avions besoin de consolation. J'avais besoin de consolation. Seigneur nous a envoyé quelqu'un. C'était le pasteur de l'église. Il est venu. Là, le jour de Noël, il était en famille. Il était en famille. Il a renoncé à des choses légitimes pour venir jusqu'à chez nous, nous apporter une parole de consolation dont nous avions besoin. Le Seigneur s'est servi de lui. Il a fallu qu'il renonce à des choses légitimes. Vous savez, pour servir le Seigneur, il faut mettre beaucoup de choses sur l'autel. Il ne faut pas avoir peur. C'est ce qui prouve finalement qu'on l'aime avant tout. Non ? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie ne peut être cachée avec le ressuscité que dans la mesure où nous sommes morts et ressuscités avec lui, bien sûr. Quand nous nous sommes repentis de nos péchés, quand nous avons ouvert notre cœur au Seigneur, quand nous avons mis notre foi en lui, nos péchés ont été pardonnés. Tout le passé, le sang de Christ a tout effacé. Gloire au Seigneur. Quel beau jour. Quelle joie est descendue en nous. Je ne sais pas, moi c'est mon expérience, vous aussi certainement. Une joie extraordinaire. La paix, puis la paix de Dieu. La joie et la paix. Si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu ce matin, qu'il ne tarde pas, c'est tellement merveilleux. Quelle joie nous inonde. Quelle paix. Voilà. Mais notre esprit, qui était dans un état de mort à cause du péché, est revenu à la vie. C'est l'expérience, bien sûr, de la conversion, de la nouvelle naissance. Mais cette vie nouvelle, cette vie de l'esprit, elle n'est pas compatible avec la vie de la chair. Les deux sont opposés. Et nous sommes tous les jours devant des choix. Si vous vivez selon la chair, Romains 8, 13, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps ou de la chair, vous vivrez la vie de l'homme spirituel, la vie de l'esprit est primordiale. C'est elle qui doit régner dans nos vies. Or ce monde qui vit dans la chair ne peut comprendre notre manière de vivre. Alors ça, il faut en être conscient, parce que quelquefois on a du mal avec certaines personnes, ils ne comprennent pas, hein, comprennent pas notre manière de vivre. De plus, le monde ne voit pas notre véritable identité. Il ne voit pas notre dimension spirituelle. Le principe éternel qui est maintenant en nous, il ne le voit pas. C'est caché à leurs yeux, c'est caché aux yeux du monde. Dieu voile, en quelque sorte, ma vie véritable aux yeux du monde. Remarquez, on n'a pas d'auréole, hein. On disait tout à l'heure, nous sommes les saints qui sont à Pont-Saint-Pierre, mais vous savez, sur les tableaux des peintres, il y a des auréoles. Mais non, nous on n'en a pas, hein. Mais ça nous protège de l'orgueil quand même, je crois. Toutefois, il est souhaitable que le monde voit que je suis différent. Que mes priorités ne sont pas les siennes, que mes priorités sont différentes. Mais c'est vrai qu'il ne voit pas clairement ce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et la divinité de Jésus, elle ne se voyait pas. Hein. Ah non. Elle ne se voyait pas. Vous connaissez bien sûr Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rocheton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus avait l'apparence d'un homme ordinaire, tout ordinaire. Alors, c'est vrai que nous portons l'image de Christ, et nous sommes dans des vases de terre, et notre rayonnement, mais il est d'abord spirituel. Alors il peut arriver que certains le voient. Ça peut arriver. Une fois, nous sortions avec mon épouse, d'un supermarché, et il y a une dame, là, une illustre inconnue, qui ne nous connaissait pas, que nous ne connaissions pas, qui a dit, vous êtes des chrétiens. Ah bon. Alors, je ne sais pas comment elle l'a vu, le Seigneur lui a montré, mais c'est assez rare. Oui, quand Moïse est descendu, lui, de la montagne, avec les deux tables du témoignage dans les mains, eh bien, il ne savait pas. Il avait passé du temps avec l'Éternel, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Alors, bien sûr, Aaron et les enfants d'Israël, ils étaient tout étonnés, tout émerveillés de voir Moïse avec un tel rayonnement, la communion directe avec Dieu, avec l'Éternel, avait transfiguré son visage, il était devenu rayonnant. Et à chaque fois que Moïse passait du temps dans la présence de l'Éternel, il ressortait rayonnant, alors il se masquait. Enfin, nous, on se masque, mais bon, pas pour les mêmes raisons, hein. Mais il se masquait, il mettait un voile sur son visage pour pas que les enfants d'Israël voient la fin du rayonnement. Bien sûr, ça ne se voit pas, mais quand on passe du temps dans les prières, je crois qu'on rayonne. Vous savez, je parle de ma grand-mère tout à l'heure, mais je me souviens du grand-père. Et il travaillait à l'époque, il n'était plus marinier, il travaillait au papier de la chapelle, et il commençait quelquefois 5h du matin, il faisait l'écart. Il savait, à 3h, moi j'étais gamin, j'entendais, à 3h, il était debout, j'entendais lire sa Bible. À mi-voix, il se mettait à genoux, il priait, il y passait du temps. C'était un homme ordinaire, très ordinaire. Il avait appris à lire en lisant sa Bible. Mais oui. Eh bien, cet homme-là, il a amené au Seigneur les quantités de personnes. Parce qu'il partait pas au travail le matin avec la fleur au fusil. Il partait. Il était fortifié par l'Esprit de Dieu. Il pouvait rayonner au milieu de ce monde. Alors nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Notre rayonnement n'est pas visible pour tout le monde, c'est vrai. Nous sommes ici-bas pour refléter Jésus. Refléter Jésus en mettant en pratique ses enseignements et pour annoncer l'Évangile avec foi et humilité. Alors, dans Exode 33, 18, ce qu'on voit, c'est que Moïse, pourtant vécu quand même beaucoup d'expérience, qu'est-ce qu'il dit ? Fais-moi voir ta gloire, il dit à lui. Incroyable. On pourrait dire qu'il a quand même du toupet. Mais non. Il a des désirs profonds dans son cœur. Il a des désirs profonds dans son cœur. Il avait vu quand même, Moïse, il avait vu le buisson ardent. Il avait vu les 10 plaies d'Égypte. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire, vous rendez compte. Les choses qu'il avait vues. Puis la mer Rouge, il s'était ouvert devant eux. Puis là, il avait passé du temps, des jours et des jours, dans la présence de l'Éternel. Eh bien, cet homme-là, il dit, fais-moi voir ta gloire. On est un peu étonné. Mais on peut comprendre. On peut comprendre. Plus on s'approche de Dieu, plus on est soif. Et d'un autre côté, plus on s'éloigne, mais moins on a soif. Hein, c'est ça, c'est une règle. Mais Dieu l'exauce, il va exaucer Moïse. Hein. Exode 33, 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras par derrière, mais tu verras pas, ma face ne pourra être vue. Je crois que dans nos difficultés, dans nos peines, nos maladies, nos dettes, le Seigneur nous conduit aussi à cette montagne. Puis il nous dit, voilà, il y a un lieu près de moi. Il y a un lieu près de moi. Il y a une place près du Seigneur, mon frère, ma sœur. Une place qu'il a préparée pour toi au creux du rocher. Ton Seigneur veut te dire ce matin, je te pourrirai maintenant. Ça, c'est valable pour tous ces enfants. Gloire au Seigneur. Dieu nous cache dans le creux du rocher pour nous protéger contre les attaques aussi de l'adversaire. Hein. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est parce que vous ressentez, vous-même. Ce monde, il est effrayant aujourd'hui. Ce monde est effrayant. Avant, quand j'étais gamin, quand un enfant passait devant, à l'époque, ils appelaient le maître d'école, quand il passait devant le maître d'école avec son béret, mais moi je vous dis, il était corrigé. Hein. Il a été corrigé. Et j'ai vu ça, moi, en 1948, à la rentrée des classes, à l'école Pasteur, à Petiteville. Il y a un gamin qui est passé devant le maître d'école avec le béret enfoncé sur la tête. Ben, le béret l'a volé au milieu de la cour et le gamin s'est fait un coup de pied en derrière. Et vous aviez tous les parents qui étaient à la grille. Personne n'a bronché. Je ne suis pas certain que le gamin rentrant à la maison, il n'ait pas pris une torgnole pour lui dire de nous faire marquer. Aujourd'hui, le maître d'école, il se fait lyncher. Croyez pas, nous sommes tombés d'un excès dans un autre. En dehors de ça, bien sûr, le monde nous propose des refuges, et qui sont des pièges. Ils nous bombardent de distractions vaines, inutiles. Ils nous bombardent de ces concepts malsains. Et même, il les légalise. Le creux du rocher, il est pour nous un abri, on l'a chanté tout à l'heure, un refuge, un bouclier. Nous, dont le seul refuge est de saisir l'espérance qui nous était proposée. Le creux du rocher nous préserve et nous préservera jusqu'à notre entrée dans les tabernacles éternels. Amen. Alors, vous savez, pendant la guerre, oh, je ne peux pas croire celle de 14, hein, moi j'ai connu bien sûr celle de 39-45. Je ne suis pas si vieux que ça quand même. Hein. Mais on cherchait des abris hein, à cause des bombardements. Ouais. Mon grand-père, qui s'était entraîné pendant la guerre 14-18, savait y faire. Il avait fait un magnifique abri avec des rondins en bois. Un super truc, hein. Le 17 août 1942, premier bombardement de l'armée américaine sur l'Europe. Bombardement de jour. Précédemment, les Anglais bombardaient de nuit. Un bombardement qui avait comme objectif la gare de Sotteville. Nous étions en plein dans l'axe de l'attaque. 12 B-17, forteresse volante, on les appelait, dans le B-17 de tête, Paul Tebetz, celui qui a déposé la bombe sur Hiroshima à la fin de la guerre. Eh bien, 5 bombes sont tombées tout autour de nous. Une bombe est tombée sur la maison juste en face. Nous avons été gardés, protégés. Et dans l'abri, il y avait un gamin, c'était moi, avec sa grand-mère. Et le gamin, il disait, Prie, mémé. Ma grand-mère me le rappelait souvent. Alors, les nôtres, tous les nôtres, nos familles, etc. sont dans ce monde, ils sont en danger de mort, quelquefois, hein, danger de mort spirituelle. Prie, pépé, maman, papa, puis les enfants, priez pour vos parents. Amen. Amen. Et n'oublions pas que dans les dernières paroles de Jésus dans le jardin, vous les connaissez ? Veillez et priez, plus que jamais. Nous avons besoin de les réaliser, de les mettre en pratique. Nous ne sommes pas là devant un aimable conseil. sommes devant là, devant quelque chose de primordial concernant notre relation avec Dieu et notre protection ici-bas. Quand on s'endort et qu'on se réveille, comme il est bon de se placer au creux du rocher. Ne négligeons pas cela. Et dans les moments difficiles, on s'y réfugie. Le soir, on s'endort en paix dans les bras du Seigneur. Vous avez fait cette expérience? Amen. Amen. Vous avez fait cette expérience de vous blottir dans les bras du Seigneur, vous y réfugier. Jésus prenait les enfants dans ses bras, il les bénissait, mais comme il est bon de nous cacher, au creux du rocher. Il sait si bien ce qu'il me faut, sur son amour je me repose, le mystère de toute chose me sera révélé là-haut. C'est un ancien chant, ça. C'est un ancien chant, hein. Ouais. Alors il y a des mystères, c'est vrai. Il y a des choses pour lesquelles on se pose tout un tas de questions, mais là-haut nous comprendrons. Mais dans nos situations extrêmes, dans nos difficultés de la terre, quelle bénédiction d'avoir ce refuge. Nous avons en Jésus-Christ. Alors il est un rocher spirituel qui désaltère. Concernant le peuple d'Israël, 1 Corinthiens 10,4, il est écrit, il buvait un rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était Christ. J'ai remarqué la traduction Chouraki. Tous ont bu au même breuvage du souffle, oui, ils ont bu au roc du souffle, et ce roc, c'est le Messie. Dans nos déplacements, dans notre activité ici-bas, ce roc, il est toujours là tout près. Il est même en nous. À toute heure, nous pouvons boire à la source. À toute heure, nous pouvons nous réfugier en lui, parce que nous sommes passés par la régénération, nous avons reçu une vie nouvelle, et ce qui était perdu en Adam, nous l'avons merveilleusement retrouvé en Jésus-Christ. Moïse, c'était un homme de foi, c'était quand même quelqu'un, une personnalité, Moïse. L'homme le plus doux de la terre, c'est écrit. Enfin, c'est pas moi, vous savez. Moïse, c'était l'homme le plus doux de la terre. Mais l'homme le plus doux de la terre, l'homme de foi, il a traversé des crises difficiles. Hein. Il a connu des découragements, il a été affligé à cause du peuple, de son attitude. Moïse a traversé d'ailleurs une crise spirituelle lors de l'épisode du veau d'or. Hein. Ça a été pour lui une grande désillusion. Une grande désillusion quand il est descendu de la montagne. Le peuple s'était livré à la débauche. Aaron avait dit, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ah! Et là donc, le peuple de faire la fête, oh, le peuple il aime ça faire la fête. C'est extraordinaire ça. Ben oui. Et en plus, là il y a un Dieu qui voit. Ah, oh, c'est extraordinaire. Fait-on l'Éternel, n'importe comment. Le principal, c'est quand même d'avoir une partie religieuse. Hein. C'est ce qui est écrit. Exode 32,6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, vous voyez. Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Vous voyez. Ils n'étaient pas irreligieux. Hein. Ben oui. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors si on réalise bien la scène, le peuple a oublié, ils ont méprisé la voix que Dieu venait de leur révéler, et ils s'amusent. Ils s'amusent. Est-ce qu'on peut s'amuser avec les choses de Dieu? C'est encore une réflexion que nous pouvons avoir. Ils réalisent pas le moins du monde que la condamnation de Dieu est au-dessus de leur tête. Ils ne le réalisent pas. Ils sont dans la fête. Que cette condamnation risque de fondre sur eux d'un instant à l'autre. Ben oui. Eh oui. Ils ne réalisent pas qu'ils n'ont plus la protection divine à cause de leur idolâtrie. Heureusement, Moïse va implorer, les mots sont très forts, implorer l'Éternel afin qu'il ne détruise pas le peuple. Moi je pense à ce monde. La colère de Dieu va finir par l'atteindre. Vous voyez pas tout ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez pas l'attitude du monde aujourd'hui? Il n'a pas d'abri. Il n'a pas de refuge. Les gens vivent dans l'inconscience du jugement divin, de ce qui va survenir sur la terre. Les chrétiens sont encore ici-bas. Pourquoi faire? Pour implorer l'Éternel. Pour ce monde qui court à la ruine. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Tous ces milliards d'individus qui courent. C'est effrayant. Nous sommes ici-bas pour intercéder. Nous avons une mission à remplir. Implorer, crier au Seigneur pour cette génération qui se perd. Moi je pense à l'Église aussi. Hein. Le Seigneur a dit qu'il viendrait à l'heure où nous n'y penserons pas. Soyons prêts. Soyons prêts. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de l'idolâtrie sous la grâce. C'est quelquefois ma petite idée, mais bon. Dieu n'a pas changé. Et l'être humain a changé? Non, non plus. Non plus. Ce qu'on peut remarquer, c'est que très souvent, l'être humain ne se rend pas compte de son idolâtrie. Il ne la réalise pas, comme Israël. Ouais, on n'est pas meilleur, peut-être. Hein. Étonnerait. Notre nature n'est pas meilleure, c'est ça, hein. Soyons vigilants. Je crois que c'est au pied du Seigneur, devant lui, en tête à tête, qu'on réalise s'il y a de l'idolâtrie dans nos cœurs, dans nos vies. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bon, je parle trop longtemps, vraiment. Nous sommes au service d'un Dieu d'amour, c'est vrai. Mais d'un Dieu juste aussi. Et d'un Dieu magnifique. En sainteté. C'est lui que nous aimons. C'est lui que nous voulons servir, que nous sommes appelés à servir, avec une crainte respectueuse, avec fidélité à sa parole, en lui réservant toujours la première place. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ce qu'il est bon, vous savez, ce qui est bon, c'est la présence du Seigneur au milieu de nous. C'est la présence de l'Esprit en nous. Mais comme c'est bon quand on peut percevoir le murmure doux et léger de la visitation du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors je vous rappelle Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, dans une espérance glorieuse. Amen. Amen. Bon, on sait.